Radio Okapi.
Oh, Okapi.
Il est 18h à Kinshasa, 19h à Beni, au Nord Kivu. Bienvenue à l'écoute de ce journal dont voici les titres. La RDC et la Zambie viennent de signer à Lusaka, la capitale zambienne, des accords pour la matérialisation du projet de production de batteries pour les voitures électriques. Ces accords ont été signés en présence du chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La première phase des consultations de Nairobi pour les retours de la paix à l'Est de la RDC s'est achevée hier jeudi. Vous le savez déjà, pour la province de l'Ituri, un seul groupe armé a répondu présent à l'invitation de Kinshasa. Environ 5% seulement des financements des actions humanitaires passent par les acteurs locaux, ce qui sont préjudiciés par les critères d'éligibilité élaborés par les bailleurs. Nous en parlons avec notre invité, l'éditeur régional de l'ONG britannique Street Child, Jean-Claude Bakwabaya. Mesdames, Messieurs, bonsoir. La RDC et la Zambie viennent de signer à Lusaka, la capitale zambienne, des accords pour la matérialisation du projet de production de batteries pour les voitures électriques. C'était en présence du chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est arrivé en Zambie cet après-midi. D'après la porte-parole adjointe du chef de l'État, ces accords vont permettre de garder et traiter les matières premières en Afrique afin de bénéficier de leur valeur ajoutée. Tina Salama a été jointe au téléphone par Pierre Elamegi.
Je confirme en effet que le président Félix Tshisekedi arrive ici à Lusaka pour un accord de coopération entre la RDC et la République de Zambie. Alors cet accord est relatif à la mise en œuvre d'une chaîne de valeur des batteries électriques et des énergies renouvelables. La signature de ces accords est assez historique parce que les matières premières pourront être gardées ici en Afrique, donc seront traitées ici et nous allons y ajouter de la valeur. Vous savez que les véhicules électriques notamment sont l'avenir demain. Donc voilà pourquoi il y a cet accord, notamment pour la production d'une usine, on va dire, pour la production des batteries électriques, notamment dans le domaine des énergies renouvelables également. Donc, alors on va rappeler que le président zambien, monsieur Hakainde Hichilema, était en RDC, vous en souvenez, c'était au mois de novembre. Et donc depuis lors, des échanges ont donc continué, des séances de travail également, hein, avec des experts de part et d'autre, donc du côté congolais-zambien, pour arriver donc à ce processus ou à ces accords qui seront signés ici à Lusaka dans ce domaine-là.
Vous le savez déjà, la première phase des consultations de Nairobi au Kenya pour le retour de la paix à l'est de la République démocratique du Congo s'est achevée hier jeudi. Le gouvernement congolais et quelques groupes armés ont pu se parler directement. Pour la province de l'Ituri, un seul groupe armé a répondu présent à l'invitation de Kinshasa. Il s'agit de la Force de résistance patriotique de l'Ituri, FRPI. Au sein de la population, beaucoup se posent des questions sur la non-participation d'autres groupes armés à ce processus de Nairobi. Le point avec Ezekiel Mouzalia.
En Ituri, beaucoup d'habitants attendaient avec impatience la participation d'un plus grand nombre de groupes armés aux négociations de Nairobi. C'est par exemple l'Union des révolutionnaires pour la défense du peuple congolais, URDPC, CODECO, la force patriotique et intégrationniste du Congo, FPIC, la milice Zaïre, ainsi que certains groupuscules des Maïmaï dans le territoire de Mambasa. Aucun n'a fait le déplacement de Nairobi au Kenya pour prendre part à cette première série d'échanges sur la restauration de la paix à l'est de la RDC. Seule la milice FRPI s'est rendu au Kenya. En février 2020, ces groupes armés avaient déjà signé un accord de paix avec le gouvernement congolais à Guéti dans le territoire d'Irumu. Pour les autres groupes armés, la faute incombe à Kinshasa qui ne leur a pas fait parvenir d'invitation officielle. C'est le cas de la FPIC qui dit être déjà prête pour rejoindre Nairobi. Même son décloche du côté de la CODECO dont les leaders affirment être favorables à ces processus de consultation, mais ces groupes armés posent comme préalable une invitation officiel du président de la République avant tout déplacement au Kenya. Bounia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Des défenseurs des droits de l'homme et des acteurs de la société civile du territoire de Lubero accusent les militaires congolais d'extorquer les personnes qui passent par la barrière de péage routier installée à Kimbulu, à environ 30 km au sud de Butembo, dans la chefferie de Bassoa. Ces militaires exigeraient notamment 500 francs congolais à chaque conducteur de taxi-moto. Écoutez le témoignage de Fabrice Roumia, un des activistes des droits de l'homme dans la zone. Il a été joint par Grâce Hamzati.
Les militaires
militaires ont été déployés là-bas dans le cadre de la sécurité de contrôler certaines personnes suspectes, mais curieusement, leur mode opératoire est de rationner maintenant les paisibles populations qui sont en train de se diriger dans leur champ. C'est ce que nous dénonçons en tant qu'activistes des droits de l'homme, parce qu'il est inadmissible que les militaires puissent exiger cette somme d'argent aux conducteurs de motos sous prétexte d'une redevance sécuritaire. Aller comme retour, c'est 500 francs. Ils disent qu'ils sont en train de sécuriser les paisibles populations et qu'ils doivent trouver quelque chose. Cette même pratique a été visible lorsque le président Maïmaï était juste dans des entités environnantes, mais nous ne comprenons pas comment les militaires, les forces loyalistes pratiquent les mêmes pratiques que le président Maïmaï. Donc c'est ce qui nous met dans une confusion totale. La conséquence est que certains conducteurs se retrouvent dans l'incapacité d'aller au champ pour trouver quoi nourrir à leurs enfants. Donc il y a risque que nous puissions assister à une famine généralisée au sein de la communauté.
Interrogé au sujet de cette accusation, le colonel Alain Kiwewa, administrateur du territoire de Lubero, promet de vérifier ces allégations, annonçant des sanctions si elles sont vraies. Au sud Kivu, 200 écoles avec environ 3 000 enseignants viennent d'être mécanisées. La cérémonie symbolique de cette mécanisation a eu lieu hier jeudi dans une école de la ville de Bukavu. Une action qui concrétise la gratuité de l'enseignement primaire et secondaire d'après les responsables du CECOP, le service de contrôle et de paix des enseignants. Des détails avec Rachel Kiesembangou.
Ces écoles ouvertes depuis plusieurs années pour certaines sont désormais reconnues par l'État et seront à présent budgétisées. Cela rejouit le CECOPE Sud Kivu 1. Papi Boukoko, directeur provincial CECOPE.
Nous avons pour toute la province plus de 200 écoles qui jadis n'étaient pas mécanisées, maintenant mécanisées et payées. Tous les enseignants dans ces écoles-là sont désormais payés. À part cela, on a pris les frais de fonctionnement qui s'élevaient à 126 000 francs pour les écoles qui avaient de 1 à 11 classes à 200 000 francs congolais et tant d'autres mesures ont été prises.
Cette mécanisation permettra aux enseignants d'avoir enfin un salaire. C'est donc un rêve devenu réalité pour certains d'entre eux. Un des enseignants s'exprime en ces termes.
Je tiens à remercier le gouvernement qui a pensé aux enseignants qui souffraient avec ce problème de non-mécanisation. Aujourd'hui, c'est devenu une réalité. Nous demandons aussi que le gouvernement puisse penser à nos collègues enseignants qui ont été peut-être oubliés, qui réellement et aussi puissent être les bénéficiaires de cette mesure.
À vous, Rachel Kessé, Radio Okapi.
Le 28 avril de chaque année, le monde célèbre la journée de la sécurité et santé au travail. Cette journée a été célébrée hier à Kinshasa sous le thème « Promouvoir une culture positive de la sécurité et la santé au travail, un enjeu socio-économique ». La ministre de l'Emploi, Travail et Prévention sociale, les organisations professionnelles et représentants des employeurs et les travailleurs se sont retrouvés pour célébrer cette journée. Reportage Blaise Sindani Kambala.
Prenant la parole en premier, le président de l'Intersyndicale nationale du Congo a appelé les pouvoirs publics et les patronats à prendre leurs responsabilités pour que les travailleurs aient un lieu de travail sain et sûr. Pour sa part, la ministre de l'Emploi, Travail et Prévention sociale a réitéré l'engagement du gouvernement au respect de l'autonomie des partenaires sociaux pour une étroite entente entre les travailleurs et les employeurs avant de mettre en garde à tout dérapage. Claudine Ndoussi.
J'attire donc l'attention de tout acteur véreux qui s'évertuerait dans l'évasion fiscale, dans l'évasion sociale, notamment par la non-affiliation des employeurs, la non-immatriculation des travailleurs, sans citer d'autres. Ces pratiques méritent des sanctions sévères.
Le directeur général de la CNSS a quant à lui fait connaître l'importance de la prévention aux risques professionnels. Docteur Jean-Simon Fouti.
De nos jours, la prévention est de plus en plus considérée comme une approche stratégique pour un développement économique et fiscale. Dans les pays où les mesures de prévention sont bien observées, on constate un taux très bas de risques professionnels et une croissance économique.
Notez que plus de 2 millions de personnes meurent chaque année suite aux accidents du travail, selon l'Organisation internationale du travail.
Et sous un autre chapitre, le Sénat a adopté au cours de la plénière de jeudi deux projets de loi déjà votés à l'Assemblée nationale. Il s'agit du projet de loi autorisant la ratification de la convention de transfèrement des personnes condamnées entre la Belgique et la RDC, ainsi que celui portant ratification de la convention d'entraide judiciaire entre Bruxelles et Kinshasa. Peu avant le vote, le vice-ministre de la Justice a répondu aux différentes préoccupations soulevées qui ont essentiellement tourné autour de la crainte d'évasion des personnes condamnées, les conditions de vie dans les prisons, les respects des droits de l'homme, les infrastructures carcérales et la nature du jugement. Amato Bayoubassir est au micro de Michel Kifindangoy.
L'opportunité et l'intérêt pour la République démocratique du Congo répond à la question de la compétence universelle de la Belgique qui pouvait se permettre d'arrêter et condamner un citoyen congolais partout où il se trouve. Cette convention viendra réduire la compétence universelle de la Belgique dans la mesure où désormais, pour poursuivre, il faut obtenir l'accord de la RDC pour les infractions qui relèvent de la compétence des autorités judiciaires congolaises et c'est conformément aux dispositions de l'article 1er de la Convention d'entraide judiciaire. En plus, la RDC pourra désormais poursuivre ceux qui auront commis sur notre territoire les infractions telles que le blanchiment des capitaux, le trafic d'organes, le trafic des enfants et qui se seraient retranchés en Belgique.
Il faut noter toutefois que le transfèrement des personnes condamnées dans leur pays d'origine n'est pas automatique. Celui-ci ne peut s'effectuer qu'à la demande de la personne condamnée elle-même. Et le pays à qui la requête est adressée peut en toute souveraineté examiner pour autoriser ou pas le transfèrement de tel ou tel autre cas, surtout en ce qui concerne par exemple les cas de violences sexuelles. Confusion et absence de consensus autour du ticket de l'Union sacrée pour les élections du gouverneur et vice-gouverneur dans la province du Maïndombé. Après les tickets d'Eric Tabola, on parle encore de notre avec le sénateur Mafoua comme candidat gouverneur de cette famille politique. Dans l'entretemps, plusieurs autres partis membres de l'Union sacrée maintiennent aussi leurs candidats, notamment l'UDPS et l'UNAFEC. Le secrétaire fédéral de l'UDPS, Maïndombé, fédération de plateau, qui l'a dit, invite la hiérarchie de l'Union sacrée à trouver vite un consensus pour éviter les désordres au sein de cette plateforme. Richard Malonga est au téléphone d'Irène Boma.
L'Union sacrée nous a mis dans une confusion après ces premières élections qui a dégagé un consensus de Mme Eric Tabola comme gouverneur. Et après, l'Union sacrée nous sort encore un autre consensus disant si Eric Tabola ne passe pas, c'est Mafoua qui va passer, bien évidemment avec le vice-gouverneur comme part réservée à l'UDPS. Et une confusion que dans une même plateforme, deux candidats dans une même province, à l'heure qu'il est, il n'y a pas consensus autour de ces tickets-là. Tout candidat aujourd'hui doit impérativement se battre et surtout que ce sont les grands électeurs qui ont pris conscience de ce qu'est devenu le Maïndombe qui, depuis le démembrement jusqu'à aujourd'hui, n'a pas encore décollé avec son développement. Et maintenant, l'heure a sonné pour le développement du Maïndombe. À la hiérarchie, je leur demande d'être clair avec ça. Il y a encore presque une semaine pour ces élections que l'Union sacrée désigne officiellement un candidat pour sa plateforme, pour son compte. Et que ce candidat-là passera toujours avec l'IDPS parce que c'est le parti présidentiel.
Une nouvelle plateforme regroupant les partis politiques et associations culturelles qui prônent le fédéralisme a vu le jour hier jeudi au Stadium du 4 janvier. C'était au cours d'une cérémonie organisée à la place Imka, commune de Kalamu. La cérémonie s'est clôturée par la signature d'une charte du cartel des partis politiques et associations culturelles. Les adhérents, dont les partis politiques Alliance des bâtisseurs du Congo, Abaco, Alliance politique des Kassavubistes, APK et quelques associations, estiment que le fédéralisme constitue la seule alternative pour le développement national intégré. Suivez les explications du président du parti Alliance politique des Kassavubistes, Pierre Basséa, est au micro de Jean-Marc Matouaki.
L'unitarisme a montré ses faiblesses, ça a échoué lamentablement. C'est pourquoi nous en appelons à tous les Congolais. Le moment est venu de s'unir pour asseoir le fédéralisme pour le développement de la République démocratique du Congo. Nous en appelons à tous les partis politiques et associations culturelles qui prônent le fédéralisme de se joindre à nous pour défendre le fédéralisme. Parce que ce que nous voudrions, que les provinces soient autonomes. Les provinces ne sont pas autonomes. C'est pourquoi tu vois maintenant, on a beaucoup de bouchons à Kinshasa. Pour vendre même de l'eau, il faut venir à Kinshasa. Un petit travail, il faut venir à Kinshasa. Alors que si nos provinces étaient autonomes, avec les recettes, ils allaient développer les provinces. C'est pourquoi nous demandons à toute la population de s'unir pour asseoir le fédéralisme pour l'émergence de la République démocratique du Congo.
Actualité internationale.
Le président mozambicain Philippe Nyusi est en visite officielle pour 3 jours en Ouganda depuis mercredi dernier. Après avoir rencontré son homologue ougandais Yoweri Museveni, les deux chefs d'État ont tenu une conférence de presse commune. Parmi les points abordés, il y a la situation sécuritaire de la province mozambicaine du Cabo Delgado en proie à une rébellion islamiste depuis 2017. Le président ougandais envisage l'envoi des troupes au Mozambique pour lutter contre les terroristes. Au Cameroun, Médecins sans frontières lance un nouvel appel pour la libération de ses collaborateurs. Cette ONG demande de nouvelles autorités camerounaises la libération de ses 4 collaborateurs détenus dans la région du sud-ouest. Cela fait 4 mois qu'une infirmière et un ambulancier ont été arrêtés alors qu'ils portaient secours à un homme blessé par balle.
L'invité.
Environ 5% seulement des financements des actions humanitaires passent par les acteurs locaux. Ceux-ci sont préjudiciés par les critères d'éligibilité élaborés par les bailleurs. Nous en parlons avec notre invité, le directeur régional de l'ONG Street Child, Jean-Claude Bakabwaya, qui pense qu'il faut changer de philosophie. Il s'entretient avec Honoré Missenga Kalala.
Jean-Claude Muhindo, bonjour.
Bonjour, monsieur Honoré.
Street Child organise un atelier sur la localisation dans l'action humanitaire. Cet atelier se fera en 2 temps et à 2 endroits, Goma le 28 avril et Kinshasa le 5 mai prochain. C'est quoi Street Child, une ONG des droits de l'homme, une organisation humanitaire, et quelle est sa couverture géographique?
Street Child, c'est une organisation international des droits britanniques. Alors, nous sommes actifs dans plus de 21 pays au monde, notamment les pays les plus affectés par les conflits. Pour la RDC spécifiquement, c'est pratiquement plus de 15 ans que nous sommes actifs en RDC.
Vous couvrez aussi le Burundi, je vois aussi à la République centrafricaine.
Absolument. Donc, nous couvrons la RDC, le Rwanda, le Burundi et depuis un moment aussi la République centrafricaine, où d'ailleurs nous irons pratiquement pour une autre conférence débat, précisément le 15 mai.
Venons-en maintenant à l'atelier lui-même. D'abord, qu'est-ce que vous entendez par la localisation dans l'action humanitaire?
La localisation dans l'action humanitaire, c'est un concept qui vient pratiquement de ce qu'on appelle aujourd'hui les grands baguennes. Donc, les résultats du plus grand sommet humanitaire mondial qui a eu lieu à Istanbul en 2016, qui a réuni certains des grands bailleurs humanitaires, certains membres des gouvernements donateurs, les ONG internationales, en tout cas les plus connues, hein, les plus actives, les agences des Nations Unies. La clé de voûte autour de leur discussion, c'était comment nous assurer qu'il y a beaucoup plus de financement entre les mains des plus vulnérables, c'est-à-dire de ceux qui sont véritablement sur terrain. Et ça, c'était donc une recommandation du groupe de travail de ce sommet-là, qui se sont engagés collectivement que désormais, il faut qu'au minimum autour de 25% de financement humanitaire soit entre les mains de ces acteurs locaux qui sont les premiers sur terrain. Parce qu'on a compris qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de l'impact dans les actions humanitaires, ça reste un tout petit peu discutable.
Donc l'idée, c'est que pour qu'il y ait plus d'impact des actions humanitaires, il faut impliquer les acteurs locaux.
Absolument, absolument. On ne dit pas que les ONG internationales n'ont pas d'impact, mais on aura beaucoup plus d'impact si nous essayons d'arrondir nos angles en renforçant les capacités des acteurs locaux de sorte qu'elles soient en mesure d'aller plus loin que nous, parce que naturellement elles peuvent aller plus loin que nous, elles sont plus acceptées dans les communautés que les grandes ONG parce qu'elles sont naturellement issues des communautés. Nos évaluations qui nous ont poussés à développer ces grands projets nous ont montré que malgré les engagements, malgré les bonnes intentions, en réalité la communauté humanitaire n'a pas avancé dans la localisation. Notre évaluation nous a montré que 99% des propositions, des projets qui sont soumis au bailleur et même acceptés mentionnent le mot localisation. Disent nous appuyons les acteurs locaux. Mais en réalité, dans la pratique, ce n'est pas vraiment ce qui se passe. Parce qu'on a à peine démontré que seulement 5% des financements entrent ou touchent ou arrivent entre les mains de ces acteurs qui sont véritablement au front plus que les acteurs internationaux.
Oui, alors maintenant, après ces discussions à Goma, ici à Kinshasa, quelle va être la prochaine étape?
La prochaine étape, c'est que nous, les projets continuent. Maintenant, la prochaine étape qui va s'étendre sur 2, même plusieurs années, c'est que nous Nous allons travailler avec ces ONG locales pour développer les ODI, Organizational Development, donc développement organisationnel, ou alors plan d'amélioration des performances, qui va donc nous permettre de commencer à les construire avec le temps dans ce que nous appelons partenariat localisant. C'est-à-dire, nous co-développons avec des programmes, des projets. Nous les aidons à comprendre comment nous faisons, comment les autres font. Qu'est-ce qui plaît aux bailleurs? Au même moment, nous poussons les plaidoyers avec les bailleurs pour qu'il y ait de plus en plus des critères de l'éligibilité des ONG nationales au financement soient revus pour qu'elles aient aussi un peu d'accès ou plus d'accès qu'auparavant.
Jean-Claude Mouindo, merci.
Et c'était notre invité, le directeur régional de l'ONG Street Child, qui s'entretenait avec Honoré Missenga Kalala. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez continuer à les réécouter sur toutes les plateformes numériques de Radio Kapi.